Tristan Hertig.
À la faveur d'une offensive fulgurante, les rebelles en Syrie ont infligé un coup dur au régime de Bachar al-Assad. Ce dernier a perdu hier le contrôle d'Alep, la deuxième ville du pays, pour la première fois depuis le début de la guerre en 2011. Le président syrien a menacé de recourir à la force pour briser les terroristes. À l'heure où son allié russe a mené des raids meurtriers contre la ville d'Alep et la province voisine d'Idleb, fief d'une coalition de groupes rebelles dominés par des islamistes. Le président serbe Aleksandar Vučić a réfuté hier toute implication de l'État serbe dans un attentat contre un canal d'eau vital sur le territoire du Kosovo. Le gouvernement de ce dernier l'accuse de l'avoir orchestré en se servant de méthodes russes de menace. Ils ont accusé Belgrade et la Serbie. Nous savons avec certitude que ça n'a rien à voir avec Belgrade, a affirmé le président serbe en conférence de presse. Il n'y a pas un intérêt plus grand pour la Serbie que d'apprendre la vérité, a dit Aleksandar Vučić, selon qui il faudrait chercher les origines de cet acte dans l'intention de Pristina d'entraver la voie européenne de la Serbie, mais aussi dans la campagne électorale au Kosovo en vue des législatives de février. Le gouvernement britannique va augmenter de 19 millions de livres, environ 21,2 millions de francs suisses, son aide humanitaire pour Gaza, où la situation est catastrophique. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre du Développement Annelies Dodds, qui se rend au Caire pour une conférence sur le sujet. Les Gazaouis ont un besoin vital de nourriture et d'abri dans la perspective de l'hiver. La conférence du Caire sera une opportunité de proposer des solutions concrètes à la crise humanitaire, a affirmé la ministre dans un communiqué publié en amont de la conférence du Caire. Des dizaines d'opposants vénézuéliens ont manifesté hier à Caracas pour la libération des prisonniers politiques, la plupart arrêtés pendant les protestations contre la réélection du président Nicolas Maduro. La manifestation avait été convoquée par la chef de file de l'opposition, Maria Corina Machado, entrée en clandestinité et absente du rassemblement dans la capitale. Et la météo, ce matin, ciel nuageux le long du Jura et sur l'ouest du plateau. Dans les Préalpes et les Alpes, en revanche, encore de bons moments de soleil. Dans l'après-midi, un ciel le plus souvent très nuageux, avec l'arrivée de quelques pluies à partir du Jura et qui devrait s'étendre à toutes les régions en soirée. Les températures de 1 degré à 10 au maximum. Demain, des éclaircies attendues en pleine, mais un temps plus nuageux le long des reliefs, avec des averses surtout le matin. Le mercure de 4 à 8. Enfin, mercredi, un ciel globalement nuageux, avec toutefois quelques éclaircies, notamment en Valais et sur le bassin lémanique. Il fera au maximum 5 degrés. Vous êtes sur RTS Info, on se retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'actualité.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
La maltraitance infantile n'est pas un jeu d'enfant. En Suisse et dans le monde, des milliers d'enfants sont confrontés à des situations de violence physique, psychologique, ou à de la négligence. Pourtant, face à cette maltraitance, donner est un jeu d'enfant. La RTS et la chaîne du bonheur s'engagent du 14 au 20 décembre pour une enfance heureuse en Suisse et dans le monde avec leur programme Cœur à cœur. Faites un don sur cœur.rts.ch.
Des sons lumineux pour éclairer vos nuits. Sur RTS Première.
CQFD.
La filariose, une maladie qui peut aller jusqu'à faire gonfler un membre du corps de manière très impressionnante. 50 millions de personnes concernées chaque année dans le monde, et notamment dans la région de la Polynésie. On vous emmène dans un instant pour voir comment la population est sensibilisée à cette maladie. Ensuite, avec Lucia Silig, nous irons dans les nuages, ceux de la région de l'Arctique, où ils sont en train de changer de forme à cause du changement climatique. On verra pourquoi dans une vingtaine de minutes. Et pour terminer, toujours dans le ciel, mais un peu plus haut, nous accueillerons les auteurs de l'Atlas historique du ciel. Voilà pour le programme. Bonjour et bienvenue à vous.
CQFD, le magazine scientifique et médical de RTS La Première, Stéphane Gabiou.
Direction Moréa, pour commencer cette émission, une île polynésienne située à quelques kilomètres de Tahiti et parsemée de champs d'ananas. Un paradis, hélas, importuné par des moustiques transmetteurs de microfilaires. Leur multiplication entraîne un retour de cas de filariose. Laure Philibert, qu'est-ce que c'est cette maladie presque inconnue sous nos latitudes et pourquoi fait-elle l'objet d'une grande campagne de lutte sur place en ce moment ?
Alors, vous ne la connaissez pas très bien, tout simplement parce qu'elle est transmise sur le moustique et on la contracte, effectivement, Stéphane, après une piqûre de moustique. moustiques infectés. Moustiques vecteurs de larves, des larves qui vont muter en vers, et ces vers vont grandir, coloniser les vaisseaux lymphatiques et produire des millions de microfilaires. Alors cette situation qui peut aboutir à des œdèmes, puis des gonflements, cette situation fait penser aux plis que l'on observe, vous voyez, sur les membres des éléphants, notamment sur les pattes.
Oui, effectivement, on a l'image. C'est douloureux.
Alors non, c'est bien souvent asymptomatique et c'est bien là le problème, parce que lorsque l'on découvre qu'on est atteint, c'est que la maladie a en général atteint un stade très avancé et c'est à partir de là que ça peut devenir vraiment contraignant.
D'où le lancement d'une campagne de lutte sur cette île de Mouréa où la filariose a gagné du terrain.
Oui, je vous emmène dans le centre névralgique de cette campagne, c'est l'hôpital de Lille, un petit établissement qui fait face au quai des Ferries, et devant l'entrée, un stand de distribution de médicaments est installé et le responsable de l'opération nous y attend.
Donc je suis Jérémy Bouchu, je suis médecin à l'hôpital d'Afareitu sur l'île de Mouréa. En fait, c'est la filariose, c'est une vieille histoire. Hein. C'est une maladie qui a toujours existé, qui est déjà relatée dans les légendes polynésiennes. Donc certaines légendes racontent que un tahua, un sorcier menaçait quelqu'un qui ne faisait pas ce qu'il devait faire, d'avoir des grosses jambes et des gros bras. Donc là, c'est clairement une référence à la filariose, déjà dans la période pré-européenne. Et puis finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de comptes rendus médicaux de la période un peu coloniale du début du siècle. Localement, on a créé l'Institut Louis Malardet dans les années 50, en 1953 pour exactement. C'est un laboratoire en fait public qui a commencé à faire des études sur le sujet et finalement qui a pu mesurer dès 53 un taux de filariose à plus de 35%. Sur ces 35%, il y en avait 8% qui étaient des gens qui étaient atteints, qui avaient l'éléphantiasis, la grosse jambe énorme qu'on voit dans les vieux films.
Symptôme principal.
Ça, c'est le symptôme effectivement qui est visible, c'est celui qui est reconnaissable. Malheureusement, c'est une maladie qui évolue lentement. Quand on a le symptôme, on est déjà en phase de séquelles. Et puis, à partir de 64, il y a eu les premières campagnes qui ont été organisées par ce laboratoire, par l'ILM. C'est des campagnes qui ont deux volets, toujours, qui ont un volet gestion du gîte à moustiques. Et puis une campagne distribution de masse. On donnait les cachets par-ci, par-là, aux gens qui voulaient bien. Les gens les prenaient, les ramenaient chez eux. Et puis des fois, ça finissait pour le chien qui finalement lui aussi il a des vers des fois. Et puis à partir de 99, la Polynésie française s'est rapprochée en fait de l'OMS parce que l'Organisation mondiale de la santé, elle gère la filariose. En tout cas, elle supervise les campagnes de masse partout dans le monde. Et la filariose, c'est pas un truc qui est juste dans la Polynésie. C'est pas un truc qui est juste dans le Pacifique. Et les filarioses, elles font partie des maladies tropicales négligées. L'OMS a implémenté cette nouvelle stratégie de campagne de distribution de masse où en fait on demande aux gens qui viennent au stand ou auxquels on distribue dans les quartiers les cachets de les prendre devant le volontaire qui les distribue. Et c'est ça qui a fait la différence. On a permis, à partir du moment où on a implémenté la POD, de passer des 10% résiduels qu'on traînait depuis 60 ans à moins de 1% en seulement 6 ans de POD.
Cette maladie, comment on la transmet ? Qu'est-ce que c'est que la filariose lymphatique ? Il y a aussi plusieurs filarioses, je crois.
C'est des vers qui font une dizaine de centimètres de long quand même. Hein. On peut les tenir du bout du doigt. Ils sont assez fins, par contre, ils font un peu moins d'un millimètre. Il y en a plusieurs espèces. Elles se différencient toutes par des formes de bouche un peu différentes. D'accord. Une fois qu'un ver est adulte, il va pondre des larves. Ces larves, elles vont se disséminer dans la circulation sanguine de la personne. Et puis un moustique qui passe par là va finalement aspirer une larve et ensuite aller se poser sur quelqu'un d'autre, piquer quelqu'un d'autre et hop, réinjecter la larve dans cette autre personne. Ce moustique, il est indispensable au cycle du microfilaire parce qu'en fait, la larve va maturer dans les organes du moustique. Elle va changer, elle va passer par différents stades larvaires avant d'être réinjectée à la personne suivante. Quand on a un œdème, on est déjà au stade de séquelle. Ça veut dire que même si on tue les vers, on ne reviendra pas en arrière, l'œdème y reste. Alors, suivant où il est, des fois on peut aider un petit peu quand même. On peut avoir un œdème des testicules, hein, du scrotum, hein. Donc ça va gonfler au niveau de la bourse chez les hommes. Et en fait, là on va pouvoir vider cette eau qui s'accumule parce qu'elle est concentrée à un endroit, c'est facile. Par contre, quand elle est diffuse dans les tissus, comme c'est le cas de la jambe, on peut rien faire. Il y a des programmes de l'OMS pour essayer de diminuer un peu... faire de la chirurgie esthétique pour diminuer un peu tout ce volume, parce qu'en fait, une jambe filarienne, c'est une jambe qui va quadrupler en poids. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une jambe de 10 kg, on va avoir une jambe de 40 kg, donc il faut la traîner quand même. Hein. Donc en termes de pour se déplacer, c'est pas facile.
Alors les cachets qui sont distribués, on a parlé tout à l'heure de la nothésine. C'est quoi ces cachets et ça sert à quoi ?
En fait, là, on a un petit cocktail, un assortiment de trois molécules. Donc, la notésine, c'est le nom historique de la diéthylcarbamazine. C'est le médicament qui a été distribué dans les années 50 et qui est toujours d'actualité. C'est un médicament qui ne se trouve pas en pharmacie de ville. Vous le trouverez ni en Suisse, ni dans un hôpital spécialisé, ni nous, on l'a jamais en dehors des campagnes POD. Pourquoi ? Parce que c'est un médicament qui n'intéresse plus beaucoup de monde, hormis l'OMS. Et donc, c'est l'OMS qui le fait fabriquer et qui le distribue ensuite dans ses campagnes. Ensuite, on a un autre médicament qui est l'albendazole. Ça marche sur vos vers intestinaux et ça marche aussi sur la filariose. Et c'est deux médicaments-là qu'on a utilisés dans les dernières campagnes de 2010 à 2016. Et ce qui fait la nouveauté dans celle-ci, c'est qu'on a rajouté l'ivermectine. Vous en avez peut-être entendu parler pendant le Covid, l'ivermectine qui est un antiparasitaire dont l'usage a été détourné dans le Covid de manière totalement stupéfiante, puisque en fait il n'y avait aucune action sur un virus, c'est pas possible. Donc tous ces trois médicaments ont des actions complémentaires, soit dans un sens sur le ver adulte, soit sur les vers, sur les larves qui se baladent. Le but ultime, c'est de tuer bien sûr le ver, mais si on ne le tue pas, c'est au moins de l'affaiblir.
Laure, vous nous le rappelez régulièrement lorsque vous intervenez dans CQFD, la Polynésie, c'est très grand. Est-ce que cette île, donc l'île de Mouréa, est la seule à faire l'objet d'une campagne?
Alors, pas tout à fait. Ça dépend vraiment du niveau d'infestation. On avait connu une longue pause hein, sans prise observée directe. Et avec le docteur Jérémy Bouchu, que l'on vient d'entendre, une soignante, Frédéric, et elle est habituée à ce type de tournée.
Alors, moi, je m'appelle Frédéric Roftoff. Je suis cadre de santé à l'hôpital de Mouréa et je suis coordinatrice de cette action communautaire de POD pour lutter contre la filariose. J'ai pas compté, mais j'en ai fait aux Marquises parce qu'avant, j'étais sur l'archipel des Marquises qui est à 1500 km de Tahiti et donc qui était des îles beaucoup plus isolées, moins peuplées. Mais ça reste le même principe. Alors, la filariose en elle-même ne se guérit pas. Une fois que les effets sont là, on se guérit pas, d'où l'importance de cette prise observée directe, parce que avant que la maladie se déclare, sachant que lorsqu'on est infecté, les symptômes apparaissent 15 à 20 ans plus tard, le plus tôt on traite les vers, au plus tôt on évite les effets secondaires, enfin l'apparition visible de la maladie. Et les moustiques sont très nombreux. C'est pas toutes les mêmes espèces. Et sur Tahiti, c'est très urbanisé. Et le moustique qui transmet la filariose, c'est un moustique plus de la forêt. Ce n'est pas les mêmes moustiques qu'on retrouve à Tahiti et à Mouréa. Et puis, la population de Mouréa est beaucoup plus agricole que celle de Tahiti. Donc, a plus de risques d'attraper un moustique qui le pique qui est atteint de filariose que quelqu'un qui vit dans une zone urbaine.
La population joue le jeu ou ça crée quand même un stress, ça génère un stress parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces médicaments?
Traditionnellement, les gens avaient l'habitude de la prendre. Donc, du coup, ils sont très contents de pouvoir la reprendre et ils ont vu hein, dans leur famille, il y a souvent des personnes âgées qui ont la maladie, ils voient les effets, donc ils sont très contents de reprendre ces médicaments.
On voit bien que ça nettoie, qu'on est fatigué, que ça a une incidence sur l'organisme et donc on se dit j'étais peut-être infectée.
Et ça fait du bien parce qu'effectivement on se dit on lutte contre cette maladie et en plus les effets collatéraux de cette prise de POD, ça permet aussi de lutter contre les vers intestinaux. On mange beaucoup de poissons ici, crus en plus, donc on peut être aussi avoir des vers intestinaux. Et par extension, ça a une action sur la gale et les poux. Donc les enfants sont ravis. Enfin, les parents des enfants sont ravis.
Dans quelques instants, nous poursuivrons cette visite qui n'a rien de touristique du côté de l'une des écoles de l'île de Mouréa en Polynésie, où se déroule la campagne de distribution du traitement contre la filariose lymphatique.
CQFD sur RTS La Première.
T'es qu'un grain de poussière sur cette terre. Si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts. Je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra.
stratosphère. C'est une fois par millénaire. C'est qu'une fois par millénaire. T'es tout pour moi. T'es tout pour moi. T'es tout pour moi. T'es tout pour moi. T'es mon Amérique, t'es mon cinéma, mon roller coaster, mon alléluia. T'es ta dynamite, t'es mon calme plat. Avant toi, je n'existais presque pour moi.
Pour moi, c'était Clara Luciani. Laure Philibert, vous nous parlez aujourd'hui de la filariose lymphatique, ou quand des parasites filaires sont transmis à l'être humain par des moustiques. Ça peut entraîner une augmentation anormale du volume de certaines parties du corps, donnant lieu à des douleurs, un handicap sévère et une stigmatisation sociale. Cette maladie n'existe pas ou presque pas en Suisse, mais elle fait l'objet d'une grande campagne de lutte dans l'une des îles de Polynésie. Campagne qui consiste en une prise de médicaments devant le personnel soignant.
Ben oui, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Et alors, cette campagne, elle se déroule d'abord chez les jeunes. Depuis une semaine, les professionnels de santé distribuent un traitement dans les écoles de Lille. Il y en a 7. Et on va aller voir ensemble comment ça se passe directement dans l'une de ces écoles avec Jérôme Debacre, médecin à la direction de la santé.
Ça va très vite, ils sont tous très gentils, très coopératifs. Ils ont été bien briefés avant, bien formés, ils savent très bien pourquoi ils le prennent et ils sont tous partants. Eux, ils n'ont pas l'habitude du tout parce que ça fait 8 ans qu'on n'a pas distribué qu'il n'y a pas eu de campagne de distribution communautaire et donc c'est une première pour eux.
Je vous ai vu leur donner des conseils avant qu'ils passent récupérer les médicaments. Alors quels sont les conseils pour que ça se passe bien?
Pourquoi on leur donne leur traitement? Est-ce qu'ils le savent? Parce que c'est quand même bien de savoir pourquoi on prend des médicaments. Il y a 3 médicaments différents. On a de l'ivermectine, de l'albendazole et de la nothésine. Alors pour les enfants, la technique spéciale, c'est on écrase des comprimés, on mélange avec de la compote de pommes.
Ça va? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Des médicaments pourquoi? D'accord. Et qui est-ce qui donne la filariose? Les moustiques, très bien. Bon, donc vous allez être traité ce matin, d'accord? Par contre, à la maison, il faut dire à papa, maman, hein, papy, mamie, tonton, tati, les grands frères, tout le monde, au magasin, cherchez vos comprimés, d'accord? Il faut que tout le monde le prenne. C'est d'accord pour vous? Allez, les 2 premières. Tiens, on va voir, prends devant. Viens, ma chérie. Viens devant. 2 petits gars à côté.
Bonjour, mademoiselle. Tu vas bien? Alors, comment tu t'appelles?
Rihanna.
Ok, Rihanna, tu vas monter sur la balance, ensuite tu viens me voir, d'accord? Vas-y.
43,3.
Alors là, celui-là, il est à goût orange, ça va, tu peux arriver à l'avaler. Celui-là, il est un peu aigre, donc du coup, c'est pas trop bon. Celui-là, il n'a pas de goût. Fais couler avec l'eau dans la gorge. Ouvre grand. Ah, super, bravo, mademoiselle. Tape là, hop ça.
Quand j'ai allé là, à la table qui est là-bas, j'ai respiré un peu. Et après, elle m'a donné au premier, j'ai fermé les yeux, j'ai poussé ma main, et après, elle a piqué dans ma bouche et a avalé tout seul.
On dirait comme un bon champion, nous.
On dirait du bonbon.
Alors, je m'appelle Manuela Nolan-Berger, je suis la directrice de l'école primaire de Hapiti. J'accueille des enfants de 2 ans, section des tout petits, jusqu'en CM2, 10 ans. J'ai un total de 370 élèves. Je vais le faire en même temps que les petits, les plus petits de la maternelle pour que je leur montre l'exemple.
On met dans la bouche et on boit de l'eau.
Allez, madame, allez.
Que ça tombe, je lève un peu la tête, ok, pour que ça tombe au fond de la gorge, d'accord.
Ah, lève la tête. Ouais.
Ben voilà, en tout cas, on peut dire que le public semble adhérer à cette campagne et participe, Laure.
Ah oui, il participe et il comprend les enjeux. Et alors, parmi les coordinateurs de cette distribution, Stéphane, j'ai trouvé une compatriote helvète et je vous propose de l'écouter.
Je m'appelle Laurence Rochat-Stettler, je suis médecin suisse, je vis depuis 18 mois sur l'île de Tahiti en Polynésie française. Par ma formation, donc, je suis médecin spécialisée en maladies tropicales et infectieuses et je travaille actuellement à la direction de la santé de la Polynésie française en charge des programmes en lien avec les maladies transmissibles. C'est ici que j'ai découvert en fait la filariose lymphatique, déjà concrètement en voyant des gens qui, dans la rue, avec ces grosses jambes qu'on appelle l'éléphantiasis, ces grosses jambes déformées, c'est pas rare de les rencontrer dans la vie de tous les jours, au marché ou ailleurs dans la rue.
C'est la première campagne de ce type à laquelle vous assistez ?
C'est la première campagne à laquelle je participe en tant qu'organisatrice. Il y a eu énormément de discussions déjà par rapport aux nouveaux cas, ensuite avec l'Organisation mondiale de la santé sur la pertinence de refaire une campagne de distribution de masse sur Mouréa. L'OMS Pacifique chapeaute effectivement une campagne internationale en vue de l'élimination de la filariose lymphatique dans les zones endémiques. Chaque année, donc, il y a une réunion de tous les pays du bassin pacifique pour parler des derniers événements, ce qui concerne notamment la filariose, mais aussi d'autres maladies tropicales négligées. On a vu début 2023 une augmentation assez importante de personnes qui avaient des microfilaires, donc c'est les personnes qui sont vraiment à risque d'infecter leur entourage. Ces données, en fait, ont été discutées avec le référent de l'OMS de Genève, le professeur King, lors de cette réunion, et suite à cette discussion et en accord avec la direction de la santé ici à Papeete et le ministère de la santé de la Polynésie française, nous avons pris donc la décision de refaire une campagne de distribution de médicaments de masse sur cette île. Sur l'île de Mouréa, vu le bassin de population de plus de 20 000 personnes, on a dû revoir notre manière de faire les choses. Le porte-à-porte n'était plus une option pour différentes raisons, notamment logistiques. Et c'est la première fois qu'on fait une campagne sur des lieux fixes, donc des stands devant les magasins principaux de l'île. On est installé en fin de journée sur une douzaine de stands devant les magasins principaux de l'île. On travaille bien sûr avec dans les écoles le matin. Certaines entreprises ont aussi manifesté un intérêt pour leurs employés, donc on s'est rendu auprès de ces entreprises. On travaille en collaboration également avec les infirmiers libéraux qui atteignent les personnes qui ne pourraient peut-être pas se déplacer sur les stands, les médecins également, et les pharmacies sont également des lieux où les gens peuvent prendre leurs médicaments. L'île de Mouréa est à 18 km en face de l'île de Tahiti. Mouréa a 20 000 habitants, Tahiti 200 000. C'est clair qu'une campagne contre la filariose lymphatique sur l'île de Tahiti serait encore plus compliquée à mettre en place au niveau logistique que sur l'île de Mouréa.
Voilà pour les explications donc de cette médecin suisse que vous avez rencontrée sur place, Laurence Rochat-Stettler. Laure, vous êtes rendue effectivement sur place, donc sur l'île de Mouréa, le temps du reportage. Mais là où vous vivez, donc vous êtes sur une autre île, la filariose ne sévit pas, en tout cas pas au même niveau. Est-ce que vous avez néanmoins déjà participé à ce type de programme de prévention auparavant ?
Oui, il y a quelques années auparavant, c'était tous les deux ans pour nous sur Tahiti. Et comme je suis rentrée avec la direction de la santé, on m'a administré le traitement dans la navette qui nous ramenait sur Tahiti. Alors j'ai testé pour vous. Et bon, ce sont quelques comprimés qui, l'air de rien, sont puissants. Ça fatigue énormément. Alors sans doute parce que voilà, c'est une purge. Hein, on vous l'a expliqué pendant le dossier. J'ignore si j'étais contaminée. Mais en tout cas, ça provoque une fatigue importante. Alors c'est sans doute un peu psychosomatique. Hein, je vous avoue que je suis allée regarder des photos sur Internet. Et alors, voir les gens gonflés dans la rue, c'est une chose, mais voir les vers, les photos et se dire qu'on a peut-être des vers comme ça à l'intérieur, je pense que voilà, ça fait travailler. Hein, j'ai mal dormi. Mais en tous les cas, on serait un tiers à ressentir cet effet. Donc, me voilà à présent légère, prête pour de nouvelles aventures, Stéphane. Mais il faut savoir qu'à travers le monde, les lymphœdèmes, donc l'éléphantiasis, touchent 15 millions de personnes et 25 millions d'hommes, donc presque trois fois la population en Suisse, sont affligés biais d'une hydrocèle urogénitale, donc le plus souvent au niveau du scrotum, on en parlait tout à l'heure. Oui. L'OMS espérait éliminer complètement la filariose d'ici 2020 et on constate hélas que ça n'est pas encore le cas.
Effectivement, et ben voilà, grâce à vous, on aurait été sensibilisés à cette maladie. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez la réponse Laure, mais si on souhaite venir sur place en tant que touriste, est-ce qu'il faudrait de manière préventive aussi prendre ces médicaments, notamment si on va sur des îles qui sont particulièrement touchées?
Non, parce qu'il faut, je pense qu'il faut se faire, piquer quand même régulièrement par des moustiques infestés. Je ne pense pas qu'une piqûre de moustique avec assez peu de larves puisse générer vraiment les effets dont on vient de parler. Après, nous, on vit dans un milieu où on se fait piquer tout au long de l'année, hein, puisqu'il fait chaud toute l'année. Donc les moustiques, on les voit tout le temps, et je pense que là, c'est dangereux. Mais quand on vient un mois, je ne pense pas qu'on ait besoin de prendre ce traitement. En tout cas, il n'y a pas de campagne.
D'accord. Mais alors, en tout cas, bien mettre de l'anti-moustique, ça c'est sûr. Même pour un mois, comme ça, on essaie de se protéger au maximum. Merci beaucoup Laure Philibert. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur la filariose lymphatique, un rapport très intéressant fait le point et évoque le plan stratégique sur le site de l'OMS. Dans quelques minutes, dans CQFD, on va faire de la science des nuages de l'Arctique qui changent avec le réchauffement accéléré de la région. Voici une chanson de 1972. Elle est signée Neil Young. Elle s'appelle Old Man.
Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home.
CQFD, le magazine scientifique et médical de RTS, la première. Maintenant, on va passer un moment avec la tête dans les nuages, Lucia Silig.
Oui, des nuages particulièrement frisqués, puisqu'on va s'intéresser à la formation des nuages en Arctique avec Julia Schmallet, professeure assistante en sciences atmosphériques à l'EPFL, qui a récemment publié avec ses collègues deux études sur le sujet. Si les scientifiques se penchent sur cette région en particulier, c'est parce qu'elle se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que le reste du globe. Alors, ils et elles veulent comprendre comment cela affecte la formation des nuages. nuages et comment des modifications dans cette dynamique pourraient affecter le climat en retour.
Et qu'est-ce qui cause ce réchauffement accéléré?
Il y a plusieurs facteurs, entre autres le fait que la couverture de neige et de glace réfléchit les rayons du soleil, mais plus il fait chaud, moins il y a de neige ou de glace pour faire cet effet miroir, et donc plus il y a de chaleur qui est absorbée par la surface de la Terre. Mieux cerner le rôle des nuages est important, notamment parce qu'en hiver, ils font office de couverture qui emmagasine les rayonnements terrestres chauds et contribue au réchauffement accéléré de la région. Les scientifiques veulent par exemple mieux comprendre pourquoi et comment les nuages se forment. Julia Schmallet explique qu'il y a deux ingrédients très importants.
Premièrement, il faut évidemment la vapeur d'eau. Et pour la formation de nuages, on a besoin d'une humidité relative supérieure à 100%. Parce que la vapeur d'eau doit se condenser pour former des gouttelettes. Donc, d'un point de vue énergétique, cette condensation est très coûteuse. Mais s'il y a une surface préexistante dans l'atmosphère, comme des particules fines, les aérosols, énergétiquement, c'est plus préférable pour la vapeur d'eau pour se condenser.
Alors, peut-être juste pour que je comprenne bien, quand on dit qu'il faut que la saturation d'humidité de l'air soit en-dessus de 100%, ça veut dire qu'on est à la limite de ce que l'air peut absorber. Et donc, il faut passer au stade supérieur quelque part. Il faut mettre un coup d'énergie en plus pour que l'eau change d'état et se condense en gouttelettes d'eau. Et pour ça, il faut qu'il y ait un petit quelque chose de départ, c'est ça?
Oui, exactement. S'il y a une surface, des particules très fines, la vapeur d'eau peut se condenser et former des gouttelettes. S'il n'y a pas une surface existante, il faut avoir des humidités relatives supérieures à 5 fois 100%. Et ça n'existe pas dans notre atmosphère. C'est pour ça qu'il faut vraiment les aérosols pour former les nuages.
Et puis, donc ces aérosols, c'est quoi?
Ce sont des particules très très fines. On peut s'imaginer qu'elles sont 20 fois plus petites que le diamètre d'un cheveu. Donc on ne peut pas voir ces particules avec l'œil nu. Donc il faut des instruments pour les étudier. Et les particules fines, les aérosols, peuvent être composés de sel de mer, par exemple, de poussière, des bactéries, des pollens. Et on fait la distinction avec des particules primaires et secondaires. Des particules primaires, ce sont des particules qui sont émises comme particules dans l'atmosphère. Par exemple, les poussières. Il y a des particules secondaires. Et pour les particules secondaires, il faut des réactions chimiques dans l'atmosphère qui forment ces particules. Ce sont par exemple les sulfates, les ammoniums, les matières organiques.
Mais comment font les scientifiques, Lucia, pour étudier la composition de ces nuages? J'imagine qu'ils ne sont pas si faciles à attraper.
Non, effectivement. Alors, il y a l'option où les scientifiques restent bien sagement sur leur brise-glace à attendre qu'un brouillard se forme pour l'analyser avec leurs instruments grâce à des petits tubes pour échantillonner l'air. Mais l'ennui, raconte Julia Schmallet, c'est qu'il faut parfois attendre très longtemps.
Donc, on préfère travailler avec une montgolfière ou un ballon captif. Et donc, on installe les instruments au-dessous de ce ballon captif et on le laisse monter dans l'atmosphère. Et on peut effectuer ces mesures directement dans le nuage.
Et une fois qu'on connaît la composition de ces nuages, qu'est-ce que ça nous amène comme information?
Oui, c'est une question très importante parce que il y a des nuances que j'ai pas expliquées jusqu'à maintenant. Dans un nuage, dans l'Arctique, toujours on va encontrer un mélange. Il y a des gouttelettes liquides, mais il y a aussi des cristaux de la glace. Il y a des aérosols qui peuvent former des gouttelettes. Donc, ce sont les matières organiques, les sulfates, l'ammonium, le sel de mer. Ce sont des aérosols capables d'attirer l'eau. Mais il y a aussi des aérosols qui sont des nucléoses pour la formation de la glace. Et ce sont des particules biologiques, des bactéries, des pollens. Et ce qu'on recherche, c'est la composition de cette particule. Il y a combien de noyaux pour des gouttelettes? Il y a combien de noyaux pour la glace?
En fait, vous essayez de voir si dans votre nuage, il y a plutôt des particules qui sont propices à la formation de gouttelettes ou plutôt propices à la formation de cristaux de glace.
Exactement. On cherche le rapport entre ces deux types des particules.
Parce que ça change le type de nuage.
Oui, ça change le type de nuage. Normalement, la glace dans l'atmosphère se forme à moins 38 degrés. Mais s'il y a des noyaux qui peuvent former de la glace, par exemple les bactéries, on peut déjà former de la glace à moins 10 degrés. Donc ça change énormément. Moins 40 degrés, moins 38 degrés, c'est très très froid, même en Arctique, sur l'océan de l'Arctique. Mais moins 10, c'est plus réaliste. Donc on peut rencontrer des cristaux de glace aussi en printemps, en automne et pas seulement en hiver, et c'est très très important pour le bilan énergétique de l'Arctique.
Yulia Chmallet et ses collègues ont justement étudié ces aérosols biologiques pendant une expédition qui a duré plus d'un an et observé que la taille des particules biologiques dans l'eau correspond à la taille de celles que l'on retrouve dans l'air, 2-3 micromètres au printemps, mais plutôt autour de 1 micromètre en automne. L'équipe est convaincue qu'il y a un lien, que c'est l'océan qui émet ces particules qui se retrouvent dans l'atmosphère et favorise la formation de nuages de cristaux de glace. Étonnamment, les scientifiques ont aussi constaté des pics de concentration de ces aérosols biologiques dans l'air au moment où l'océan est le plus gelé et que l'activité biologique est réduite à quasi zéro.
Est-ce que le réchauffement influence la présence de ces aérosols biologiques ?
La réponse de Yulia Chmallet.
Oui, le changement climatique a des effets dans tous ces aspects. Si on pense des particules biologiques, s'il y a moins de la banquise, il y a plus de phytoplancton, plus de microbes dans l'océan. Donc il y a plus de biomasse et avec les vagues, l'océan peut émitter ces particules biologiques.
On se retrouve avec plus de particules biologiques dans l'atmosphère.
Oui, peut-être. Sauf que si ces particules forment des cristaux de glace, les cristaux de glace font de la neige ou de la pluie. Donc, il y a aussi des effets qui mènent à des concentrations plus bas dans l'atmosphère.
Et ces particules biologiques, quel impact ont-elles en retour sur le climat arctique ?
Alors, on n'arrive pas encore à faire un bilan global pour savoir si, en fin de compte, ce phénomène réchauffe ou refroidit l'atmosphère locale. Yulia Chmallet souligne que d'un côté, la présence de ces aérosols biologiques permet la formation de nuages de glace à des températures nettement plus hautes, hein, on l'a dit, moins 10 degrés. Donc, la formation de nuages, même dans une atmosphère qui se réchauffe. Mais en même temps, le poids de ces cristaux entraîne une sédimentation. En clair, il se met à neiger, ce qui fait disparaître le nuage. Il aura par conséquent une durée de vie moins longue qu'un nuage de gouttelettes d'eau. Ce sont par ailleurs surtout les nuages de gouttelettes d'eau qui emmagasinent le rayonnement terrestre et le réémettent en direction de la Terre. Donc, pour résumer, le phénomène observé veut dire potentiellement plus de nuages, même à des températures plus élevée, mais ça ne veut pas dire que ces nuages vont forcément contribuer au réchauffement de la région.
Et avec cet exemple, on se rend bien compte à quel point la modélisation du climat est complexe. Merci à Yulia Chmallet, professeure assistante en sciences atmosphériques à l'EPFL pour ses explications. À suivre dans CQFD, l'Atlas historique du ciel, un formidable livre d'histoire et de science qui retrace 6000 ans de recherche et de découverte.
Zeit sich viel, viel schnell. Mir wird schwindelig und ich gehe durch. Ich blinze, die Augen brennen. Das Licht ist viel, viel zu grün. Ich entscheide nein, für heute ist noch nicht Schluss. Ich tauche wieder zu, tauche in meine eigene Welt. Wo ich tanze, tanze, als ganz für mich allein. Nimm mir gefangen, nimm mir sonst mal los. Jetzt mal fest in Arm. Das Glück in mir.
blieb in meiner eigenen Welt. Wo ich tanzen kann, ich hab's ganz für mich allein. Nicht mehr gefangen, sonst mal ohne dich ganz frei. Ja, ich tanzen kann, ich hab's ganz für mich allein. Ich bin gegangen, alle Messages bye-bye. Alle Messages bye-bye. Alle Messages bye-bye.
Cette chanteuse est zurichoise, elle s'appelle Lina Button et cette chanson « Ade Merci ».
CQFD.
Tiens, on va se lancer un défi à présent dans CQFD, résumer 6000 ans d'histoire et de découvertes en une vingtaine de minutes, Stéphane Delétro.
Ouais, défi que je relève, mais avec l'aide de mes deux invités, le géohistorien Christian Cantalou et l'astrophysicien Pierre Léna, ils signent l'Atlas historique du ciel aux éditions Les Arènes, un livre très très riche avec énormément d'illustrations et d'informations qui rendent accessibles 6000 ans de découvertes. Un atlas, comme le dit le quatrième de couverture, qui est autant un livre d'histoire qu'un livre de science.
Et ces deux auteurs sont effectivement avec nous, Christian Grataloup et Pierre Léna. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Stéphane Delétrose.
Et voilà. Et Stéphane Gabu, on est deux Stéphane pour vous accueillir.
Oui, bonjour Stéphane.
Voilà, vous pouvez nous appeler les Stéphane, on adore, effectivement. Alors, Pierre Léna, pendant des millénaires, on a observé le ciel avec nos yeux. Forcément, on n'avait pas encore d'instruments. Qu'est-ce qui est attesté de plus ancien comme observation astronomique?
Probablement vers moins 4500, une carte pétroglyphe en Chine qui représente la Grande Ourse. Évidemment, les hommes ont regardé et probablement dessiné le ciel bien avant ou nommé les objets célestes, mais nous n'en avons pas de traces, donc ça n'appartient pas à l'histoire. C'est pourquoi cet atlas commence il y a à peu près 6000 ans.
Alors à l'œil nu, on peut notamment voir les Pléiades. Rappelez-nous peut-être ce que sont les Pléiades et quelle signification ils avaient selon les peuples.
Les Pléiades, c'est un petit groupe d'étoiles qui occupe à peu près deux fois la taille de la Lune dans le ciel, mais qui est extrêmement brillant et qui est caractéristique du ciel d'hiver. Dans le beau ciel des montagnes suisses, les Pléiades se lèvent en ce moment et peuvent être visibles toute la nuit. Et ce petit groupe, parce qu'il est très resserré, très inhabituel, c'est le seul groupement aussi brillant que l'on trouve dans le ciel, attirait l'attention des populations. En particulier, il est situé près de l'équateur, donc on le voit dans les deux hémisphères, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, et son lever ou son coucher servait de repère dans les calendriers primitifs, en particulier pour la plantation des pommes de terre ou la récolte suivant l'hémisphère, évidemment, été ou hiver.
Christian Grataloup, on peut, bien évidemment, voir des étoiles à l'œil nu, mais aussi d'autres objets célestes.
Il y a les planètes, et puis le soleil et la lune, c'est-à-dire des choses qu'on voit dans le ciel, mais qui sont mouvantes, et qui ont semé selon des mouvements réguliers. Donc c'est ce qui a servi, entre autres, au calendrier. Mais il y a aussi des événements qui, eux, sont exceptionnels, surprenants, par rapport à ces régularités, comme les comètes, les étoiles filantes, mais aussi les éclipses, et beaucoup d'autres. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui surprenait, inquiétait, pouvait être mauvais signe, éventuellement bon signe. Voilà, donc à partir de cela, effectivement, toutes les sociétés ont construit beaucoup de choses dans leur propre mythologie.
Et le fait de ne pas avoir d'instrument n'empêchait pas de faire de remarquables observations, par exemple chez les Mésopotamiens, à qui on doit, ça dit en passant, le zodiaque.
Oh, les Mésopotamiens, enfin les Babyloniens en particulier, ont surtout fait d'énormes tables de données. Ils ont fait des datas, comme on dirait aujourd'hui, qui ont ensuite beaucoup été utilisées, analysées par les géomètres grecs. On a toute une collation d'observations, en particulier des éclipses, qui ont été beaucoup très très utiles et qui sont pratiquement à la base de toute l'aventure scientifique de l'astronomie. Entre autres, bien sûr, ça servait autant à ce que nous on appellerait aujourd'hui de l'astrologie qu'à de l'astronomie, mais c'était la même chose. Et on avait là donc la possibilité d'organiser une lecture du ciel qui a donné à l'origine une 12 maisons qui ensuite a été repris par les Grecs lorsqu'ils ont repris ce savoir babylonien et qui a donné le zodiaque.
Un mot peut-être.
Et bien sûr, oui. La mesure ne demande pas des lunettes astronomiques. On a fait des mesures assez précises, d'ailleurs, simplement avec des alignements géométriques. Le cadran solaire est un exemple d'outil précieux qui permet par la position des ombres, de mesurer des angles. Et donc, les Grecs en particulier, à la suite des Babyloniens, ont largement exploré la mesure des mouvements célestes, planètes, étoiles, soleil, lune.
Christian Grataloup, parmi les noms que l'on relève dans cet atlas, il y a celui de Ptolémée. Pourquoi a-t-il été important ?
Essentiel aussi pour en tant que moment précis de collation de l'ensemble des savoirs antiques, mais aussi parce qu'il a joué un rôle bien après, hein, au 15-16 siècles après, dans la transmission scientifique et le renouveau de l'ensemble cartographique et astronomique. Ptolémée a écrit beaucoup, y compris en musique, l'harmonie par exemple, en mathématiques, mais surtout les deux livres complets dont on a eu on a gardé l'ensemble du texte, c'est l'Almageste qui est dont le nom lui-même d'ailleurs montre qu'il a été transmis par les Arabes, Almagest comme algèbre, la géographie. Et ces deux ouvrages sont à la fois, il y a toujours un début méthodologique important, et puis ensuite une collation, une grande base de données. Alors pour l'astronomie, il s'agit des étoiles, je crois qu'il y a 1022 étoiles qui sont listées par Ptolémée, et puis dans la géographie, c'est une liste de lieux avec leurs coordonnées, qui sont des coordonnées construites bien sûr avec des systèmes astronomiques, mais en méridien et parallèle.
Et l'on arrive aux premières observations faite pour la première fois avec un télescope par Galilée, toujours en votre compagnie Pierre Léna, astrophysicien, et Christian Grataloup, géohistorien. Les premières observations du ciel avec une lunette ont été faites au début du XVIIe siècle par Galilée, justement. C'est, j'imagine, on peut le dire comme ça, un bond en avant.
C'est un bond absolument phénoménal, parce que jamais, nous l'avons dit, depuis des millénaires, les hommes n'avaient vu le ciel autrement qu'avec cet outil remarquable, mais limité tout de même, qu'est l'œil humain. Disposant de la lunette inventée aux Pays-Bas, plaidant auprès du doge de Venise son utilisation militaire, Galilée la pointe vers le ciel et pour chaque objet qu'il observe, que ce soit la lune où il voit des montagnes, Jupiter dont il voit quatre petits satellites qui tournent rapidement, donc de nuit en nuit dont la position change, que ce soit le soleil où il voit des taches, que ce soit la Voie lactée, nous l'avons dit, qu'il résout en une myriade d'étoiles, partout se révèle un nouveau monde, un nouvel univers, et ce sera le début d'une aventure qui va aller vers des télescopes de taille de plus en plus grande. On passe des quelques centimètres de Galilée au mètre, puis à la dizaine de mètres, et bientôt, pour nous autres Européens, les 39 mètres au Chili. Et c'est cette deuxième phase que l'Atlas raconte dans les parties qui suivent la phase de l'œil nu.
Et parmi les grandes figures, une autre encore qui est incontournable, Isaac Newton et la gravitation universelle, que postule-t-il ?
Nous mettons en évidence cette période tout à fait extraordinaire que Arthur Koestler a raconté avec ce titre « Les somnambules », c'est-à-dire des hommes qui tâtonnent mais qui arrivent avec Copernic d'abord, vers 1540, puis Kepler qui va marquer le tournant vers la modernité du point de vue conceptuel, Galilée le marquant du point de vue expérimental, mais également conceptuel sur la mécanique, puis finalement Newton qui fait une sorte de synthèse en proposant un caractère universel à cette gravité qui faisait, évidemment connue depuis des millénaires, hein, qui fait que les pierres tombent vers le centre de la Terre. Mais qu'est-ce qui fait tomber les pierres? Est-ce que la même force qui relie la Terre à la pierre est celle qui relie la Lune à la Terre, ou la Terre au Soleil, ou, comme l'exprime Newton, l'ensemble des étoiles dans l'univers, une extrapolation incroyablement ambitieuse, c'est cela qui va s'appeler la gravitation universelle et qui va être la base, en particulier au XVIIIe siècle, de progrès à la fois dans la mesure des distances, de la masse des étoiles et naturellement aussi de progrès mathématiques, puisque Newton, pour analyser les trajectoires des planètes, invente un nouveau procédé de calcul, calcul différentiel et intégral, qui va avoir un succès extraordinaire et que aujourd'hui nos étudiants apprennent dès la fin du lycée ou le début de l'université comme un outil universel d'analyse du monde.
Et les scientifiques de l'époque vont progressivement s'intéresser à notre galaxie. Il faudra tout de même attendre le XXe siècle pour se rendre compte que le Soleil finalement n'est pas au centre de notre galaxie, de la Voie lactée.
Oui, on a une étape fondamentale autour de 1920 où cette hypothèse que toutes les étoiles appartiennent à la Voie lactée, mais que la Voie lactée n'est qu'un amas d'étoiles isolées dans l'univers, et l'univers égale Voie lactée, et tout d'un coup, d'autres galaxies surgissent, on en connaît plusieurs dizaines de milliards aujourd'hui, mais les toutes premières sont décelées avec un procédé de mesure de leur distance un peu long pour expliquer ici, mais tout à fait extraordinaire. Et je mentionne en passant que ce procédé a été mis au point aux États-Unis par une femme. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans notre récit historique, mais oui, en voilà une. Il y en a quelques autres, Émilie du Châtelet, par exemple, qui traduisit Newton en français, hein, et qui, évidemment, ouvre la voie aux très nombreuses jeunes filles aujourd'hui qui sont de brillantes astrophysiciennes en devenir ou au travail. C'est important de le dire ici.
Oui. Une date encore, 1887, est le lancement de la première opération scientifique internationale, la cartographie de la totalité du ciel, Christian Grataloup.
Le caractère international est en fait presque inhérent à l'astronomie, parce que on a tous le même ciel, mais toutes les sociétés ont un point de vue. Elles sont quelque part sur Terre, donc elles ont une vue nécessairement limitée. Alors, grâce aux grands voyages européens depuis le XVIe siècle, on a eu une idée de l'ensemble du ciel, mais il a fallu organiser des voyages, en particulier au XVIIIe siècle. L'Académie des sciences françaises avait envoyé Maupertuis ou la Condamine pour mesurer en fait l'arc de cercle terrestre, mais c'était aussi tout un ensemble d'observations astronomiques. Et c'était déjà en partie, il n'y avait pas que des Français déjà dans ces expéditions. Mais en 1887, avec l'Observatoire de Paris comme point de départ, il y a une association d'un ensemble d'observatoires de différentes nationalités pour cartographier l'ensemble du ciel en le photographiant. Parce qu'on n'a pas encore dit, mais la photo va jouer un rôle essentiel puisqu'elle permet un arrêt sur image beaucoup plus long que ce qu'on peut voir avec un œil même à travers une lunette. Donc il y a eu ce projet qui a été ensuite très long, beaucoup plus long qu'on ne l'avait prévu, retardé par les conflits mondiaux, et qui a fini par être partiellement totalement abandonné. Mais aujourd'hui, de toute façon, il est relayé par des observatoires spatiaux, IPARC d'abord. C'est quelque chose qui, malgré tout, a eu un grand intérêt parce que ça nous permet de donner une image du ciel il y a presque 150 ans maintenant. Qu'on peut comparer avec le ciel actuel et donc voir tous les mouvements qu'on peut lire des étoiles par rapport au ciel contemporain.
Ça nous permet aussi de voir le début de la mondialisation de la science. Hein. C'est la première opération réellement internationale qui va évidemment s'amplifier, et aujourd'hui la mondialisation de la science est une réalité à laquelle participent tous les laboratoires du monde.
Alors il y aura encore énormément de thèmes à aborder, que ce soit pour dans les grands noms Einstein évidemment, les exoplanètes, la conquête spatiale. J'aurais quand même une dernière question parce que le temps passe très vite. Imaginez le même atlas publié en 2074, De quoi parleraient les chapitres qui seraient consacrés aux découvertes récentes?
Alors je voudrais quand même dire que ça parlera certainement beaucoup d'exoplanètes. Et que pour les exoplanètes, je salue ici mes amis Michel Mayor et Didier Queloz, hein, qui ont obtenu le prix Nobel pour la première observation d'exoplanètes. Donc qu'est-ce qu'on va trouver sur ces exoplanètes? La vie est une question totalement ouverte aujourd'hui. Beaucoup de laboratoires travaillent à des signes d'une présence éventuelle de structures vivantes sur les exoplanètes. C'est certainement une question ouverte, peut-être la plus importante du XXIe siècle. Et puis une autre, bien sûr, c'est la nature de la matière noire, les premières phases de l'expansion de l'univers autour du Big Bang. Mais il y aura peut-être des questions qui vont surgir d'ici un an, 10 ans, 30 ans, et que dont on n'a pas du tout l'idée aujourd'hui.
Merci beaucoup Pierre Léna. Et le mot de la fin peut-être qui vous revient, Christian Grataloup, qu'est-ce qui vous a le plus marqué finalement dans ces 6000 ans de découvertes?
Qu'on passe du pluriel des différentes sociétés qu'on avait développées en particulier au début de l'Atlas, de voir comment on voyait le ciel et comment on nommait, on découpait, on pensait le ciel dans les différentes sociétés du monde, à un savoir astronomique qui est devenu universel et qui est commun à tous.
Christian Grataloup, géohistorien, et Pierre Léna, astrophysicien. Ils signent donc l'Atlas historique du ciel, publié aux éditions Les Arènes.
Connais toutes les rues. émissions de la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 3h.